Radio Kapi. Oh, Kapi.
La société civile appelle les députés à la responsabilité et à la stabilité institutionnelle face aux pétitions visant le bureau de l'Assemblée nationale. Elle les exhorte à se concentrer sur les besoins du peuple plutôt que sur la destitution de ce bureau. Deux survivants d'Ebola sortent de l'hôpital à Boulapé au Kasaï. C'est un signe encourageant dans la lutte contre ces virus. Désarmement en Ituri, seuls 1400 combattants sur les 20 000 attendus ont déposé les armes. Le coordonnateur du PDDRCS, Flori Kitoko, invité de la rédaction, va analyser les obstacles et les solutions pour accélérer le processus. Bonjour à tous. Pétition contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Des organisations de la société civile appellent les députés à l'objectivité et à favoriser la stabilité institutionnelle. Les pétitionnaires dénoncent une mauvaise gestion de la chambre basse, un manque de transparence ainsi que plusieurs mois d'arriérés dont les frais de fonctionnement et la couverture médicale des élus. Pour la société civile, les députés devraient mettre en avant les besoins prioritaires de la population plutôt que leurs propres intérêts. Grâce à Mzadi.
Pour la société civile Force et Vive de la RDC, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est totalement contraire aux attentes des Congolais. Jean Bosco Lalo est son premier vice-président national et porte-parole.
Notre pays est confronté aujourd'hui à des cycles de violences à répétition, à des massacres à grande échelle dans la région, surtout de l'Est, l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. On ne comprend pas quel est le mobile réel qui inciterait les députés nationaux à en fait de croire que la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale est une solution à la crise que traverse le pays. En tout cas, la population est une priorité. Nous voulons la paix.
De son côté, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, appelle les députés à mener leur démarche en toute transparence pour un climat de paix et à privilégier l'intérêt du peuple au cours de cette session budgétaire.
Nous pensons que les honorables députés feront mieux d'avoir un équilibre réel pour que la gouvernance ne soit pas centrée sur les individus, mais soit centrée sur les institutions et aussi le besoin de la population. Nous voulons que cette session soit consacrée totalement à comment résoudre les problèmes sécuritaires, les besoins des communautés, des infrastructures.
Rappelons que sur les 7 membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, seul le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbay et le deuxième vice-président Christophe Mbosso sont épargnés de ces pétitions.
Signalons que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu officiellement hier des mains du secrétaire général de la Chambre basse du Parlement les copies des pétitions qui visent 5 membres du bureau, y compris lui-même. Par conséquent, le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbay, non concerné par les pétitions déposées lundi, convoque les députés cet après-midi pour une plénière. À l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau, précise son communiqué. Bonne nouvelle, dans la zone de santé de Boulapé, en territoire de Mouéka, province du Kasaï, les deux premiers survivants de la maladie à virus Ebola, totalement guéris, ont quitté l'hôpital général de référence de Boulapé hier mardi et sont rentrés chez eux après quelques jours de prise en charge. C'est le directeur général de l'Institut national de santé publique qui annonce cette nouvelle à Radio Okapi. Docteur Dieudonné Mwamba indique que 16 cas confirmés continuent à suivre les soins. Et jusqu'à ces jours, plus de 500 personnes ont déjà été vaccinées depuis le lancement de la campagne de vaccination dimanche dernier. Plus de détails avec Alain Irung.
La communauté de Boulapé, joyeuse, salue par des chants la sortie de l'hôpital des deux femmes complètement guéries d'Ebola. L'une de ces femmes, une infirmière, témoigne.
À toute la communauté, je voulais vous dire que la maladie existe. Moi, je suis la première personne à contracter cette maladie car je suis infirmière dans cet hôpital. Je travaille comme accoucheuse, mais j'ai attrapé cette maladie. Je ne peux pas cacher, je me suis rendue le plus vite possible à l'hôpital pour des soins.
Mais quelles sont les mesures préventives contre le virus Ebola? Docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, explique.
éviter notamment de toucher un malade qui présente les signes d'Ebola, une forte fièvre, des céphalées, des courbatures, des nausées, vomissements et diarrhées qui peuvent être teintés de sang. Éviter de toucher les liquides corporels des malades atteints d'Ebola, notamment toucher ses vêtements ou les ustensiles utilisés par les malades atteints d'Ebola.
Notez que cette guérison est le fruit des soins fournis par le ministère de la Santé, Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé et l'Institut national de recherche biomédicale INRB.
Toujours à propos de l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, le chef de groupement Bansweba, une entité administrative du territoire de Mweka où se trouve la zone de santé de Boulapé, tire la sonnette d'alarme. Il appelle le gouvernement à mobiliser davantage de moyens pour faire face à cette crise sanitaire dans une région où les infrastructures de santé sont vieillissantes. Le chef Bidiaka Pobé Sylvain a été joint au téléphone par Freddy Bikumbi.
Nous faisons l'effort de ramener les gens qui avaient contacté les corps, les cadavres de la maladie Ebola, les amener au centre de traitement. Mais nous sommes en train de constater que les vaccins ne sont pas en grande quantité. Je profite de cette occasion pour faire un message aux autorités de nous assister avec tous les moyens. Notre hôpital ici, c'est un hôpital, un ancien hôpital de longtemps. Depuis 1924, l'hôpital ne répond pas aux conditions sanitaires comme il fallait. Cependant que cet hôpital accueille beaucoup de malades. Donc, il n'y a pas de conditions sanitaires, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Que le gouvernement nous assiste pour arrêter cette maladie avec des médicaments, c'est très important.
Direction le Congo central où les enseignants et leurs familles pourront désormais bénéficier des soins de santé de qualité dans des structures sanitaires dédiées. Cette avancée est rendue possible grâce à l'implantation hier mardi à Matadi de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Une initiative qui vise à revaloriser la fonction enseignante à travers une prise en charge médicale adéquate. Le lancement a été officialisé par le ministre de l'éducation du Congo central en présence de Marie-Faustine Beloko, directrice de cette structure. Reportage de Nana Purich-Mambour rendu par Babel Pongo Massimango.
Les 7454 enseignants du Congo central bénéficient désormais d'une prise en charge sanitaire à travers un régime contributif. Ces enseignants, souvent confrontés à des besoins médicaux urgents, avoir ainsi une réponse adaptée à leurs revenus modestes. Pour cela, la Mutuelle de santé des enseignants MES va signer des conventions avec trois structures médicales de Matadi, l'hôpital provincial de Kinkanda, l'hôpital général de Kiamvu et le Litoi Center. Ces hôpitaux ont été choisis après une évaluation de leur plateau technique. La MES les juge conforme à la politique nationale de santé primaire en vigueur en RDC. Les bénéficiaires se disent satisfaits. C'est le cas de Godefroy Matondo, président et porte-parole de l'intersyndicale nationale des enseignants de la RDC. Créée le 11 juin 2011, la MES fête ses 14 ans cette année. Elle est déjà implantée dans plusieurs provinces, notamment le Haut-Katanga, Kinshasa, l'Équateur ainsi que le Kwilu.
En Ituri, parlons à présent d'un tout autre phénomène, celui de la popularité des perruques et des mèches et leurs conséquences sur la santé. Dans la ville de Bounia, ces perruques, mais aussi d'autres extensions des cheveux, communément appelées mèches, sont partout au marché, dans les salons de coiffure, les boutiques et sur les réseaux sociaux. Pour certaines femmes, c'est une question de style. Pour d'autres, c'est pour protéger leur chevelure. Mais quelles peuvent être les conséquences à long terme du port régulier de ces cheveux artificiels? Éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Bon, c'est rare de me voir porter des mèches et perruques, et la toute première fois que je le fais.
Nous avons rencontré quelques jeunes filles et femmes pour connaître leur expérience. Ruth Nemassi portait régulièrement des mèches.
Quand nous étions à l'université, on manquait du temps de tresser les cheveux traditionnels. C'est pour cela que j'avais pris la décision de commencer à mettre les plantes ou les mèches sur ma tête.
Mumtaz Fahim, âgée de 17 ans, pour elle, c'est l'abus qui est mauvais.
C'est joli d'en mettre, mais il ne faut pas le faire régulièrement, parce que des jeunes, naturellement, on est belle.
Les experts en santé alertent les clientes sur les risques de se faire contaminer à partir des produits chimiques ou surtout des matériels utilisés. Jean-Luc Mala est notre coiffeur, sait prendre ses précautions.
Il y a les aiguilles, gilettes, on les stérilise d'abord pour utiliser ça.
Mais attention, tous les produits importés ne sont pas bons à mettre sur la tête, avise le docteur Tripathi Sindani, dermatologue.
Il peut y avoir une allergie, peut-être que la matière avec laquelle on a utilisé pour fabriquer la mèche, ça ne concorde pas avec votre état de peau.
Il faut savoir consulter un spécialiste dès le moindre signe d'irritation. Bounia, Jean-Claude Louki, Guilé, Radio Capi.
Rendons-nous à présent au sud de Kivu. La situation est restée tendue hier mardi à Lusengi, dans la collectivité de Wakabangu Premier, territoire de Shabunda, en cause des accrochages survenus entre deux groupes armés dits Wazalendo. Selon nos sources, des hommes dirigés par le général autoproclamé connu sous le nom de Mbea ont pris d'assaut le centre commercial de Lusengi. Sur place, ces hommes armés sont venus arrêter un opérateur économique qu'ils auraient tenté de dépouiller. Ils se sont ensuite attaqués à un chef local. Face à cette situation, un autre groupe Wazalendo est intervenu, déclenchant des violents affrontements entre les deux factions. Suivez ce témoignage d'un notable du milieu, joint par Ronéline Thibonera.
Quand la population a suivi que les chefs de centre étaient battus, blessés, amenés à l'hôpital, la population est venue pour savoir pourquoi il était bâti. Ces Wazalendo ont tiré beaucoup de balles en l'air pour disperser la population. C'est comme ça que l'information a circulé jusqu'à Kalole. Il y a les Wazalendo de Kalole qui sont descendus pour venir savoir pourquoi ces de Makaku viennent tirer des balles à Lusengi, qui est un centre commercial. Quand les Wazalendo de Makaku ont appris que ces de Kalole étaient en route, ils ont fait leur position et puis après à leur rencontre, ils ont commencé à se tirer dessus et c'est beaucoup de balles qui sont tirées. On signale la fuite de la population vers Kalole, du côté de Kankom par là-bas, vers Penekusu et d'autres sont allés vers Kama. D'autres en forêt bien sûr, tous ceux qui ne peuvent pas bouger dans un sens ou dans l'autre.
Notez que nous avons volontairement modifié la voix de ce notable pour préserver son identité. Au nord Kivu, les habitants de la localité de Kiseguro, dans le groupement Binza, territoire de Rutshuru, attirent l'attention sur les cas de disparition des personnes qui deviennent inquiétants. Le dernier en date est celui de deux jeunes gens, membres d'une même famille, qui manquent à l'appel depuis plus d'une semaine aujourd'hui. Des détails avec vous, Sarah Sumbela.
Melchisedek et Patrick ne sont toujours pas revenus de champ où ils s'étaient rendus il y a environ une semaine. Toutes les recherches entreprises dans les plantations du bassin agricole de Boussessa et dans les localités des environs n'ont laissé entrevoir aucune trace d'eux. Pendant ces temps, d'autres concluent déjà à un enlèvement alors qu'aucune revendication n'a jusque-là été enregistrée. D'autres désespèrent et sont déjà en deuil. Ces derniers basent leurs convictions sur les témoignages de quelques autres personnes qui affirment avoir observé à distance ce jour-là l'enlèvement de ces deux agriculteurs. Cette même source attribue cet enlèvement aux éléments de la rébellion du M23. Toutefois, cette thèse ne réunit pas l'unanimité car certains reconnaissent que les groupes locaux d'autodéfense opèrent de temps à autre des incursions dans la région. La disparition de ces deux agriculteurs plonge les habitants de Kiseguro dans un grand émoi. Ils se remémorent le cas des disparitions quasi similaires survenues entre le mois de juillet et d'août dernier, au plus fort des affrontements dont le groupement de Binza soutiennent nos sources.
À Mbandaka, 140 enseignants associés aux inspecteurs viennent de passer 8 jours de formation sur le nouveau programme des humanités pédagogiques rénové dans la province éducationnelle Équateur 1. Ce programme prévoit une étude post-secondaire de 3 ans pour mieux former un enseignant expérimenté au niveau primaire. La formation a été dispensée par les experts du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté venus de Kinshasa. C'est là en collaboration avec l'UNESCO qui a mis en œuvre le projet sous le financement du Partenariat mondial de l'éducation à travers l'Agence française au développement AFD. Des détails avec Askinzik Bataïro.
L'expérimentation de ce nouveau programme des humanités pédagogiques rénovées s'est faite à travers l'inauguration d'une salle de l'école primaire Bakusu. C'est dans cette école que plusieurs élèves destinés à ce nouveau programme ont été accueillis pour s'en imprégner. Pierre Mukindi, un des formateurs de l'UNESCO, explique la particularité de ces programmes que viennent de bénéficier 140 enseignants de Mbandaka.
Alors on a compris que notre système éducatif allait de plus en plus vers la ruine parce qu'il n'y avait pas d'enseignants réellement qualifiés.
En quoi les participants, l'avantage de ces nouveaux programmes est de rendre l'élève plus compétent dans la vie courante au terme de ses études primaires et secondaires, comme le déclare cet enseignant.
Vraiment, c'est très importante cette formation-là qui vise à mettre l'enfant dans une situation qu'il doit lui-même résoudre dans la vie courante. Même s'il n'a pas d'emploi, il peut lui-même créer son emploi et puis mieux vivre.
Il faut noter qu'en Mbandaka, 8 écoles primaires et secondaires publiques sont retenues pour la phase expérimentale de ce nouveau programme. Selon Alexis Yoka, secrétaire général à l'éducation nationale, les villes de Tchikapa dans le Kassai et de Mbanzangungu au Congo central sont également concernées par ce nouveau programme.
Actualité internationale.
La campagne électorale pour le référendum constitutionnel s'achève en Guinée. C'est dimanche 21 septembre. 6,7 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. Ce référendum est une étape indispensable au retour à l'ordre constitutionnel. 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya contre son prédécesseur, le président Alpha Condé.
L'invité.
Près de 20 000 combattants sont attendus en Ituri pour adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS. À ce jour, à peine 1 400 miliciens ont déposé les armes, environ 300 fusils de guerre récupérés. Un résultat jugé insuffisant par le coordonnateur provincial intérimaire qui parle de manque de moyens pour sensibiliser et surtout prendre en charge les volontaires. Flori Kitoko et notre invité y répond aux questions de Jean-Claude Douguidilé.
Flori Kitoko, bonjour.
Bonjour.
Flori Kitoko, quel est l'état des lieux du programme de PDDRCS en Ituri?
Bon, en Ituri, depuis qu'on a commencé, avec 174 jeunes gens qui étaient regroupés à Diango. Ils ont passé plus que 2 ans. Ça fait une année qu'ils sont rentrés dans leur milieu. Nous n'avons même pas les moyens d'aller les rendre visite, voir un peu comment ils vivent. Et après, il y a eu le groupe armé autodéfense au mois de janvier. Et il nous a donné plus de 1393 qui sont démobilisés avec les cartes de macarons, comme ça, les macarons. C'est à Mabanga. Nous avons fait Mabanga. On a des armées à Katoto. Les jeunes gens de Largou sont arrivés à Mabanga. Plutôt sont arrivés. Chomé, ils sont arrivés. Ils ont déposé les armes. Ils ont leurs macarons. Ils sont rentrés. Aujourd'hui, nous sommes à 1393 démobilisés. Qui sont dans leur communauté exactement, ils sont là.
Mais avec ils ne sont pas pris en charge.
Ils ne sont pas encore pris en charge. C'est ça l'inquiétude. Et avec le mouvement qui est encore né en Ituri, il y a des arrestations. Un des mobilisés qu'on va au Laki, ils disent non, non, toi tu es de tel groupe armé. Ils sont arrêtés, on continue à plaider pour qu'on les libère. Et c'est encore inquiétude. Celui qui était au front, il restait là-bas, il mangeait. Il dépose l'arme, il est sérieux, il dit moi je rentre dans mon village. Vous le prenez, vous l'arrêtez, vous le mettez au cachot. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez lui dire pourquoi tu es sorti? Rentre au fond. Tout ça sont des inquiétudes. Mais avec les opérations qui sont passées il y a 2 mois ici, 1 mois ici, nous sommes moins à plus de 300 armes que les groupes armés ont remis. Ils attendent la prise en charge.
Maintenant, sans moyen, Flori Kitoko, que vous allez faire comment? Parce que même vos partenaires disent qu'il n'y a pas assez de financement. Quelles seraient, selon vous, les solutions durables en interne ou même sur le plan national pour vous appuyer? Parce que la volonté y est, quoi.
Bon, il n'y a pas de miracle, cher ami. La République...
Est-ce que localement, on ne peut pas trouver des solutions aussi? Par exemple, quels jeunes gens arrêtent avec les conflits armés?
Pardon. Bon, localement, c'est la communication. C'est l'implication des leaders communautaires qui doit sensibiliser les jeunes gens de déposer les armes.
Et il faut demander... Mais les leaders n'ont pas des armes, donc voilà.
Non, les leaders n'ont pas des armes, mais c'est lui qui représente la communauté. Il doit aussi encourager les jeunes gens de déposer des armes, de faire autre chose. Je vous dis ici que c'est lui qui a la volonté de cultiver les champs. Pourquoi il doit avoir une arme? Le partenaire nous dit qu'ils n'ont pas aussi beaucoup de moyens. Mais l'État, la souveraineté de la République... Il faut que l'État se prenne en charge et dire nous mettons le moyen pour le programme PDDRCS. Et le partenaire vient en appui de l'État congolais. Nous, on n'appuie pas les partenaires. C'est le partenaire qui nous appuie. Là, nous avons 1 dollar, il nous ajoute $1. Et on évolue. Mais si nous commençons à tendre tout entre les mains des partenaires, chers amis, nous allons tourner en rond pendant encore 10 ans. On ne va pas terminer cette histoire.
J'étais dans un territoire la semaine passée. Il y a un de vos collaborateurs qui avait demandé, dit à la délégation que le fonds n'arrive pas sur le terrain. Donc, c'est difficile de pouvoir faire avancer ce processus-là. Le fonds est décaissé à un certain niveau, mais ça n'arrive pas sur place. Est-ce que c'est encore là un autre problème qui vous préjudicie là?
Bon, peut-être qu'il n'a pas eu le courage de vous dire la vérité. C'est pas le fonds n'arrive pas là où il est comme chef d'antenne ou un agent. Les fonds, il n'y a pas de fonds pour les programmes. Il faut qu'on continue à plaider au gouvernement de la République pour qu'on mette des moyens. Il faut vraiment des moyens. Moi, qui je vous parle, je suis un ancien du programme depuis 2001. La Banque mondiale nous avait donné $220 millions avec Conader. Les jeunes gens qui ont encore des armes laissées, ils savent que, à l'époque, un démobilisé qui arrive, il a un peu de dollars. Il va à la communauté, on le suit pour les champs, l'élevage, la formation à métier. Mais aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des 774 qui ont fait 2 ans à Diango. Ils n'ont même pas fait de formation à métier. Quelqu'un qui est sorti, nous l'avons encadré, on l'a demandé de rentrer. Il arrive, il a des problèmes, il est tombé malade, il est mort. Sa femme et les enfants restent avec qui? Où il a attendu, ça ne vient pas. Il intègre encore les groupes armés pour faire quoi? C'est pour faire la violence, tuer encore. C'est une inquiétude. C'est pour faire la violence, tuer encore.
Florie Kito, que je vous dis merci.
Merci, cher ami.
C'est par ici que nous clôturons ce journal. Sa coordination a été assurée par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Hirung. Billy Landry Beto était à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet radiocapi.net.